Monsieur le Président de la République, bienvenue aux îles Marquises.
Emmanuel Macron est donc arrivé aux îles Marquises, accueilli au son des tambours et des chants de bienvenue. Le chef de l'État est venu soutenir l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au forceps, le Parlement a adopté cette nuit le projet de loi qui définit l'extension du pass sanitaire. Olivier Véran se félicite d'une unité nationale retrouvée. Le trafic a repris ce matin entre Paris-Montparnasse et l'ouest de la France. Trafic fortement perturbé hier après la mort d'un ingénieur de la SNCF sur un chantier en Essonne. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo avec, on l'espère, de nouvelles chances de médailles tricolores. Aujourd'hui, on fera le point dans ce journal. Juste après l'invité politique, les projets de loi sanitaire et contre les séparatismes ont un peu occulté le vote définitif de la loi climat en fin de semaine dernière. La politique française en la matière, le prochain rapport du GIEC, la primaire écolo où elle est candidate, Delphine Bateau, députée et présidente de Génération Écologie, à ce micro à 8h15. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous. C'est la première visite d'un président français sur les îles Marquises. Emmanuel Macron est arrivé dans l'archipel polynésien ce matin, accueilli au son des tambours. Claudia Bertram, vous suivez son déplacement pour Europe 1.
Oui, Emmanuel Macron est arrivé sur l'île d'Ivaoa, l'une des 6 îles de l'archipel des Marquises, en fin d'après-midi ici. Direction d'abord le cimetière où deux grands artistes sont enterrés, le chanteur Jacques Brel et le peintre Paul Gauguin, face à l'océan. Et puis, grande cérémonie d'accueil au stade du principal bourg de l'île, au bord de l'eau. Dans la tradition marquisienne, plusieurs centaines de danseurs venus des 6 îles de l'archipel ont dansé une mavé mai, une danse d'accueil avec chant et tambour. Puis une Marseillaise entonnée face à l'océan avant les mots d'accueil de la maire de la commune d'Ivaoa.
Monsieur le Président de la République, vous nous faites l'immense honneur d'être le premier chef d'État à venir aux îles Marquises. Merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue en terre des hommes. Et bienvenue chez vous.
Emmanuel Macron s'est vu attribuer un nom marquisien qui veut dire le grand chef qui marche et qui ira loin. À l'issue de la cérémonie, sur une tribune aménagée sur de grandes pirogues, le président s'est engagé à se battre pour la candidature des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette nature, cette biodiversité, ce n'est pas un mot technique, c'est votre vie, ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux. Ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez.
Le président qui est ensuite allé à la rencontre des Marquisiens alors que la nuit est tombée ici sur l'île.
Claudia Bertram, envoyée spéciale d'Europe 1 en Polynésie.
Ici, en métropole, après 60 heures de débat, le Parlement a adopté le projet de loi anti-Covid qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire.
Une adoption au forceps peu après minuit. Il n'y aura donc pas de licenciement pour les salariés non vaccinés. Le pass sanitaire est maintenu pour les mineurs. Il sera obligatoire sur les terrasses des cafés et des restaurants, mais pas dans les centres commerciaux. Un compromis dont se félicite le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Députés et sénateurs, après plus de 60 heures de débat, ont réussi à trouver un accord entre donc la majorité gouvernementale et l'opposition qui a ici la maîtrise au Sénat. Et donc c'est forcément une bonne nouvelle. Et je dirais aussi que c'est sans doute la meilleure réponse qu'on puisse apporter à celles et ceux qui pratiquent parfois la critique outrancière, qui parlent de tyrannie ou de dictature. Vous avez là un accord qui a été trouvé dans les deux chambres parlementaires. Encore une fois, après 60 heures de débat, de jour et de nuit. Et donc c'est une belle réponse qui montre qu'on a réussi à retrouver de l'unité, de l'unité nationale. C'était nécessaire compte tenu de la situation épidémique dans notre pays.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui continue d'inciter à la vaccination. 60% de la population a désormais reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.
Mais parmi eux, certains ont pu regoûter à une vie normale à Saintes, en Charente-Maritime. Une boîte de nuit, le Vegas, a rouvert ses portes aux seniors vaccinés. Ils peuvent donc venir danser tous les dimanches après-midi en toute sécurité. Et ils attendaient ça depuis très longtemps. Reportage de Laura Taouchanov.
Bienvenue au Vegas. Ici, les danseurs laissent leur masque au vestiaire. Ambiance tamisée, les lumières s'affolent. L'orchestre est lancé, Pierre entre en piste.
Tant que je pourrai balancer les hanches, je viendrai. Le jour où je ne pourrai plus les balancer, je reste à la maison.
François, c'est la première fois que vous venez ?
Oh que non, ça fait 25 ans qu'on vient tous les dimanches. C'est ici que j'ai rencontré mon compagnon.
Après un an et demi de fermeture, Monique a un peu de mal à se réapproprier son corps.
Et c'est dur de reprendre à danser parce que c'est en chaussée, mais pas des talons. On a repris un petit peu de poids aussi pendant le confinement. C'est plus ça.
Et vous, vous y allez pas, monsieur?
Ouais, pour l'instant, il y a un chauffeur de danseuse avec qui je pourrais m'accorder. Alors, voilà.
Ah, vous allez trouver, je pense.
C'est même sûr.
Jacques et Martine profitent d'une activité sans risque. Ici, tout le monde ou presque a ses deux doses.
Ça nous rassure.
Ouais, les jeunes disaient à la télé, les vieux, ils ont qu'à rester chez eux et pas venir nous emmerder. Les vieux sont vaccinés, les jeunes, ils ont qu'à rester chez eux.
Et c'est donc le prix de cette insouciance. À l'entrée, certains danseurs non vaccinés ou non testés repartent bredouilles avec leurs robes et leurs nœuds papillons.
Et Laura Taouchanov pour Europe 1.
Il est 8h06 sur Europe 1. Le trafic SNCF a repris entre les gares de Paris-Montparnasse et de l'ouest de la France. Trafic quasi normal après de fortes perturbations hier.
Les trains ont été suspendus ou déroutés hier après un drame en gare de Massy dans l'Essonne. Un ingénieur de la SNCF a été tué, enseveli sur un chantier dans la gare. Une enquête a été ouverte, on va y revenir. Mais d'abord, Emmanuel Duteil, où en est le trafic SNCF ce matin?
Eh bien, il y a encore quelques annulations et surtout quelques retards ce matin pour les premiers trains. Alors, si on regarde le tableau des départs, 30 minutes pour le 7h03 de Saint-Malo, tout comme le 7h45 d'Andaille, 15 minutes de retard pour le 7h37 pour Brest et idem pour le 7h37 de Nantes. Si on regarde cette fois à l'arrivée, 35 minutes de retard pour le Tour Paris, hein, qui là devait arriver logiquement à 8h02 ce matin. Le trafic va être malgré tout quasi normal dans les heures à venir au départ de la gare Montparnasse. La SNCF a dû faire face hier soir à un tragique accident. Un ingénieur de SNCF Réseau, qui travaillait sur un chantier près des lignes grande vitesse en banlieue parisienne, a été enseveli par un éboulement.
Et justement, est-ce qu'on en sait davantage, Emmanuel, sur ce qu'il s'est passé cette nuit?
Eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, les terrains étaient instables après de fortes précipitations. Une enquête est ouverte pour essayer d'avoir plus d'informations. Il a fallu en tout cas arrêter tout le trafic grande vitesse à partir de 17h et c'est reparti très progressivement aux alentours de 21h. De nombreux trains ont été annulés hier soir, notamment ceux qui devaient partir pour le sud-ouest depuis la gare Montparnasse. Des trains ont dû faire demi-tour aussi, comme un Brest-Paris d'hier soir qui est reparti directement en gare de Brest. Des dizaines de trains sont arrivés avec beaucoup de retard. 2h40 par exemple pour le 18h57 de Nantes. J'étais dedans. Je peux vous dire que l'information a été régulière, les passagers très calmes, très compréhensif au regard bien évidemment de ce drame. Des plateaux repas ont été proposés en gare et des solutions de logement pour tous ceux qui se sont trouvés bloqués hier sans solution dans les différentes gares concernées.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Il dit vouloir sauver la Tunisie en réponse aux manifestations qui réclamaient hier la dissolution du Parlement tunisien. Le président Kais Saied s'est octroyé le pouvoir exécutif. Les travaux du Parlement sont à présent gelés pour 30 jours.
Ma première décision, le gel des fonctions du Parlement. La Constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement, qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République.
Kais Saied, le président tunisien, lors de son allocution à la télévision tunisienne hier soir.
C'était il y a 5 ans. Le père Jacques Hamel, 86 ans, était égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Une attaque terroriste menée par deux djihadistes de 19 ans, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, tous deux abattus par la police. Mais 4 accusés seront jugés à partir de février prochain par la cour d'assises spéciale à Paris. Marion Dubreuil, ils seront jugés pour complicité et association de malfaiteurs terroristes.
Oui, parmi eux, Rachid Kassim. Ce Français est l'instigateur probable de l'attentat depuis l'étranger. Il aurait été tué il y a 4 ans dans la zone irako-syrienne. Dans les semaines qui précèdent l'attaque, c'est lui qui encourage Abdelmalik Petitjean sur l'application cryptée Telegram à frapper un symbole français. C'est lui aussi qui est destinataire des vidéos d'allégeance au califat des deux terroristes. La particularité de cette djihadosphère, c'est qu'ils se sont tous connus sur les réseaux sociaux. 4 jours avant l'attentat, les deux assaillants ne s'étaient jamais jamais rencontré. Adel Karmich tenait une chaîne Telegram pro-djihad très active quand il a publié le scénario d'une attaque au couteau dans une église. Abdelmalik Petitjean l'a contacté en privé. Autour d'eux gravite également Khalil, 35 ans, le cousin d'Abdelmalik Petitjean, et Jean-Philippe Steven, 26 ans, considéré comme un leader de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Tout comme Yassine, 28 ans, lui aussi radicalisé sur Internet. Deux jours avant l'attentat, il avait rejoint les assaillants à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis Toulouse, mais il les avait quittés précipitamment la veille des faits. Il a depuis toujours nié avoir eu connaissance de leur projet terroriste.
Mais un hommage sera rendu ce matin au père Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Et puis direction Tokyo pour terminer, troisième journée aujourd'hui des Jeux Olympiques.
Les Français sont à 3 médailles, une d'argent, une de bronze et une d'or décrochées hier par Romain Canon en escrime, et on espère en décrocher d'autres aujourd'hui des médailles, Julien Fromont.
Oui, effectivement, on va encore compter une fois sur le judo, hein. 2 médailles sur 3 obtenues sur les tatamis. Sarah Léonie Sizik s'est qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 57 kilos. Elle n'est plus qu'à un combat de la médaille olympique, un succès, et c'est au minimum l'argent assuré. Autre Française à suivre en escrime, Manon Brunet au sabre s'est qualifiée sans trembler pour les quarts de finale. Elle affrontera la Russe Olga Nikita pour une place dans le dernier carré. Puis en ce moment, Enzo Lefort, c'est plutôt bien parti en 8e de finale. Il mène assez largement face au japonais Saito. Une place pour les quarts de finale en vue. Au skeet, alors le skeet, c'est une sorte de balle trappe. Éric Delaunay a fini premier ex-aequo des qualifications. La finale débute dans 3 quarts d'heure. Autre Français qui s'illustre, Martin Thomas, meilleur temps des qualifications du canoë et slalom. Finale également à suivre un peu avant 9h. Et puis en VTT, ça vient de commencer. On suivra le Français Jordan Sarrou, champion du monde 2020. Mais il aura de sacrés concurrents, notamment le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Et enfin, pour conclure, peut-être une médaille en tennis de table avec la paire Lebesson-Yuan qui affronte des Taïwanais numéro 1 mondial lors de la petite finale de tennis de table.
Julien Froment pour Europe.
Et vous l'avez donc compris, beaucoup de résultats attendus avant 9h, ça tombe bien. On vous retrouve, Julien, un peu après 8h30 pour le journal des Jeux. À tout à l'heure. Merci beaucoup, c'était le journal d'Émilie Dèze. Il est 8h13.